Bon, merci en tout cas pour votre présence. Donc, nous sommes le 27 septembre 2018. C'est notre dernière étude pour ce mois, étude de la semaine, étude biblique de la semaine pour ce mois-ci. Et aussi notre dernière étude de la lettre aux Hébreux, hein, que nous méditons depuis 4 semaines maintenant. Donc, pour un petit rappel, on avait fait une première étude, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout sur le grande série qu'on appelait Garant du salut éternel. Donc la première étude était l'achèvement du plan de salut. Donc tout l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, de l'ancienne à la nouvelle alliance. C'était un peu notre première étude qu'on a suivie. Et puis après, on avait fait aussi Jésus-Christ, le médiateur d'une alliance plus excellente. Ça, c'était la deuxième étude que nous avions fait, notamment survolant chapitre 8. Donc la première était une introduction hein, globale de tout Hébreux et chapitre 8 pour la deuxième semaine. Et la troisième semaine, on s'est concentré sur le chapitre 9. Chapitre 9, on intitulé l'alliance préparatoire, passagère, temporelle vers le sang de l'alliance éternelle du Christ. C'était le survol du chapitre 9 qu'on a fait. Et là, on arrive donc à notre quatrième étude, donc ma dernière étude aussi hein, pour ce stage. Donc je vous remercie à chacun hein, pour votre présence. Et donc je vous propose le chapitre 10 pour cette étude ce soir, que j'ai intitulé, hein, toujours dans la grande série Garant du salut éternel. J'intitule cette quatrième étude Le sang de l'alliance mosaïque et le sang de l'alliance éternelle du Christ, acceptation ou rejet du Christ.
Il y a des coupures.
Tu as des coupures? Là, tu m'entends mieux? Ok,
Oui.
je continue alors. Donc voilà, c'est notre quatrième étude. Donc je vous propose qu'on puisse prier très rapidement le Seigneur et invoquer avant d'aller plus loin. Ça vous va? Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes. Nous te prions que tu puisses faciliter cet accès technologique. Et nous prions aussi pour ceux qui sont sur la route pour se rendre physiquement. Conduis-nous et en cette fin de journée, guide-nous pour être bien concentrés dans l'étude de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Apprends-nous à être semblables à l'image du Fils, comme tu désires, et que cette parole, cette semence incorruptible puisse faire son effet en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Quelqu'un disait quelque chose? C'est bon? Ok. On s'introduit donc avec cette familiarisation hein, dans ces
La
études.
liaison est un peu.
La liaison, tu dis, pardon? Ok, je continue. Donc après s'être familiarisé dans ces études hein, précédentes, l'auteur il nous amène, je dirais, vers des grands privilèges, je dirais même des plus grands privilèges que les Israélites ont obtenus. Et puis par extension, nous aussi, les païens, nous avons reçu, nous avons obtenu en Jésus-Christ. Et dans cette œuvre de la nouvelle alliance en Christ, hein, comme nous voyons toujours. Mais dans ce chapitre, un peu différemment par rapport aux autres, il va ajouter aussi quelque chose de très solennel, une sentence de jugement de ceux qui rejettent délibérément Christ, tant dans la période de l'ancienne comme sous la nouvelle alliance. C'est un peu ça qui va changer par rapport aux autres chapitres. Oui. Oui, je t'écoute.
Excusez-moi de t'interrompre parce qu'on n'entend pas du tout. Il y a des hachures et c'est-à-dire que pour chaque phrase que tu dis, presque la moitié sont avalées. C'est pas si c'est ton micro qui est saturé ou c'est vraiment le réseau qui va pas.
Alors, ce que je vais faire, je vais déclencher à nouveau le réseau comme les dernières fois, avec mon point d'accès hotspot. Et vous allez me dire si c'est un mieux. D'accord? Parce qu'au niveau réseau, j'ai toutes les barrettes. Donc je vais basculer sur l'autre réseau. Est-ce que vous m'entendez mieux cette fois-ci?
Oui, c'est déjà mieux.
Ah, c'est déjà mieux. Donc on va rester sur hotspot alors. Donc j'ai besoin de répéter un peu ou pas? Donc je vais rapidement dire, hein.
Oui.
Donc on s'est familiarisé dans les études précédentes et l'auteur il nous amène maintenant dans les grands privilèges, plus grands privilèges que les Israélites ont obtenus et par extension aussi nous les païens dans l'œuvre de la nouvelle alliance, dans Jésus-Christ. Mais dans ce chapitre, il va ajouter aussi, hein, comme je viens de dire, quelque chose de solennel, une sentence de jugement même, par rapport à ceux qui rejettent délibérément Christ, et aussi un encouragement et une exhortation pour que les vrais chrétiens, ceux qui sont en Christ, ceux qui ont obtenu le salut éternel, que ce soit dans la période de l'ancienne alliance ou maintenant sous la nouvelle alliance, ils puissent persévérer. Eux, ils ont persévéré sous l'ancienne alliance. C'est pour ça que dans le chapitre 11, il va parler de leur foi, des héros de la foi. Et maintenant, sous la nouvelle alliance, les Hébreux et par extension les païens aussi qui ont reçu Christ, doivent persévérer. Donc, on verra quelques éléments de débat dans ce chapitre, mais pas trop s'attarder là-dessus, hein. Vous m'entendez mieux?
Oui.
Super. Alors, donc, je vous propose ce plan, hein, pour qu'on ne soit pas perdu, et c'est toujours bien d'avoir un plan, parce que, surtout pour le prédicateur, parce que s'il n'a pas de plan, il risque de partir dans toutes ses pensées, et donc c'est toujours une sécurité pour nous tous d'avoir un plan d'étude, aussi bien pour ceux qui amènent l'étude, comme ceux qui écoutent. Donc voilà le plan avec quatre points cette fois-ci, j'ai mis. La première réflexion, ça va être sur le sang de l'alliance mosaïque, qu'on a déjà vu un peu sur le chapitre 9, verset 20, et aussi son insécurité, on va voir. Puis après, on va voir la perfection du sang de l'alliance éternelle par le corps du Christ, sa sécurité et sa garantie étendue aux Hébreux comme aux païens. Ça, c'est un peu la deuxième partie. Et dans un troisième temps, nous verrons aussi le rejet du Christ et le jugement conséquent pour ceux sous l'ancienne comme sous la nouvelle alliance. Et là, c'est vraiment un avertissement solennel. Et puis, en dernier lieu, on verra l'acceptation du Christ et la sécurité éternelle du salut pour tout croyant. Donc, on va commencer avec ce sang de l'alliance mosaïque et son insécurité. Donc, il est intéressant, hein, qu'on ait noté déjà, je viens de vous dire dans chapitre 9, verset 20, ce terme, le sang de l'alliance. Vous vous rappelez le premier tableau de la semaine dernière. Et là, ici, nous voyons dans le chapitre 10 à nouveau. L'auteur il reprend cette même expression, sang de l'alliance, dans le verset 28 à 29, tout en rappelant dans le verset 28 au sujet de la loi mosaïque. Hein. Il dit celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. Et dans ce contexte, il parle à nouveau du sang de l'alliance. Donc on y reviendra plus tard. Hein. Donc, on avait noté il y a 3 semaines tout l'argument de l'auteur aux Hébreux qui montre l'insécurité, l'impossibilité d'obtenir le salut à travers le sang de l'alliance mosaïque. Même si elle a pour but de orienter, c'est comme un tableau, hein, qui oriente vers une ville, mais on n'est pas encore dans la ville. Mais on a besoin de ce tableau pour se référer, pour aller vers cette direction, pour aller dans le cœur même de la ville, d'une ville de refuge par exemple. C'est un peu ça l'image aussi, hein, que je pense. Donc, le peuple d'Israël a certes été élu, mis à part, par le sang de l'alliance mosaïque, mais nous allons voir, tous n'avaient pas la foi. Parce que selon l'auteur qui s'adresse aux Hébreux, cette alliance se repose bien sur l'imperfection des souverains sacrificateurs qu'il offre, comme de tout le peuple, à cause de ces sacrifices qui sont répétés rituellement et qui ne sont que l'ombre du vrai sacrifice. Vous m'arrêtez, hein, s'il y a quelque chose, une question, hein? Ça vous va?
Oui.
Bien. Donc apparemment, j'ai lu le commentateur MacArthur, dont je m'inspire pas mal pour ses études. Il dit qu'il est estimé qu'environ 300 000 agneaux étaient offerts en semaine de Pâques. C'est beaucoup, c'est énorme. 300 000 agneaux, ça fait je sais pas combien de kilos de viande et combien de kilos d'animaux, mais c'est un peu la semaine de Pâques juive dans ces temps en question. Mais malgré tout, nous pouvons noter, hélas, qu'un grand nombre de sacrifices offerts et l'issue finale de ces sacrifices reste quand même insécure, inefficace. Pourquoi? J'ai noté trois raisons. Le verset 1, alors, est-ce que François, par exemple, tu peux lire le chapitre 10, verset 1, s'il te plaît?
En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection.
Merci. Donc, au vu de la loi possédant seulement l'ombre, les assistants y peuvent parvenir à la perfection de la gloire. D'où l'inefficacité et l'insécurité. Donc, la loi ne peut ni sauver, ni justifier, ni amener les gens dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Une deuxième raison que j'ai notée, c'est leur conscience coupable. On reviendra tout à l'heure sur la notion de conscience, qui reste toujours en proie de accusation. Et ça, c'est le verset 2. Nadine, tu peux lire, s'il te plaît?
Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché.
Or, ils ont une conscience donc de leur péché. Et ce qui était intéressant en réfléchissant sur cette étude, j'ai eu une pensée sur Zacharie, et j'aimerais que vous tourniez sur cette pensée dans Zacharie 3, 1 à 4. Vous avez, ou bien je vais vous lire. Dans Zacharie 3, 1 à 4, il est question d'un souverain sacrificateur qui s'appelle Josué, hein. Donc verset 1, chapitre 3 de Zacharie. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, va, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. C'est un parfait passage, je pense, en rapport, je ne sais pas si l'auteur des Hébreux il a pensé à Zacharie, le souverain sacrificateur, mais il est en proie d'accusation même de Satan, comme on voit dans ce passage, hein. Et aussi, troisième raison pourquoi ce sang de l'alliance mosaïque est inefficace pour sauver, c'est parce qu'ils ne peuvent ôter les péchés. Nilsson, tu peux lire chapitre 10, verset 3 dans Hébreu.
Il
Nilsson?
laisse le souvenir des péchés renouvelé chaque année par ses sacrifices.
Voilà. Souvenir des péchés renouvelés chaque année par ses sacrifices. Verset 4, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc j'aurais dû mettre 3 et 4 plutôt. Ôte les péchés. Et verset 11, il dit aussi, tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. À nouveau. Donc ils ne peuvent jamais ôter le péché. Donc c'est les trois raisons que je vois, hein, à cause de cette insécurité et de cette inefficacité. Donc, ce n'est pas une exacte représentation, ce sont les ombres des choses ou la maquette avant la construction d'un vrai édifice. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des tours avant la construction. L'architecte, il fait toujours une maquette, même dans les grandes entreprises, quand il déménage surtout, hein, dans l'entreprise à SFR. On a eu une maquette de la nouvelle du nouveau campus à Saint-Denis. Donc, on pouvait tout voir presque extérieurement, comment le bâtiment se ressemble, etc. Mais on n'aura jamais accès au vrai édifice tant qu'elle n'est pas construite. C'est un peu l'image, hein. Donc, en conséquence, dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur, il accède une fois par an. Une seule fois, car la purification reste toujours extérieure et jamais à et jamais à l'intérieur de l'homme. Il y a une interférence, on dirait. Je continue. Donc, en offrant les sacrifices continuellement, année après année, il se rappelle des péchés, le souverain sacrificateur commis, que lui-même a commis, que les autres ont commis, sans solution permanente pour ôter et purifier la conscience. Donc, leur conscience coupable reste toujours en proie d'accusation à cause du souvenir des péchés, comme nous avons lu, que Satan même accuse, hein, le souverain sacrificateur, sous le sang de l'alliance mosaïque. Et puis, c'est intéressant aussi de voir, hein, les notions de conscience. On va pas tout lire parce qu'on n'aura pas forcément le temps. Dans le verset 9 du chapitre 9, verset 14, on a vu par rapport à la purification de la conscience des œuvres mortes par le sang de Jésus-Christ. Chapitre 10, verset 2. Chapitre 10, verset 22. Chapitre 13, verset 18. Il est tout partout dans ces versets, les questions de la conscience, de la connaissance de l'être intérieur que tout homme a, y compris tout ce qui est mal et mauvais dans notre vie, et forcément les sentiments qui sont de culpabilité qui sont liés aussi. Notre conscience, elle rend témoignage. Ou bien à l'inverse, la conscience purifiée par le sang de Jésus. Vous suivez? Donc les effets nocifs de l'alcool ou du drogue, c'est un peu ce qu'on peut comprendre, hein, quand on voit les hommes qui prennent ce genre de substances, qui a pour but un peu d'anesthésier la conscience. Dieu a mis en chacun la conscience. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage, je vais vous lire dans Romains, hein, chapitre 2. Romains chapitre 2, versets 14 et 15. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont pas la loi une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Oui, Paul il dit, hein, ici que leur conscience accuse ou défend. C'est une conscience créée en l'homme par Dieu, même non-juif, et qui révèle l'œuvre de la loi. Donc c'est ça la conscience coupable dans l'ancienne alliance. Donc toute l'insécurité d'une conscience coupable devant ce sang de l'ancienne alliance mosaïque, et tout ce qui est de l'impuissance de ce sang mosaïque à enlever les iniquités, les transgressions, les offenses, tout contre Dieu. Je ne sais pas si vous avez ingurgité des médicaments, hein, comme des Dafalgan ou Doliprane, des choses comme ça. Enfin, moi j'évite en tout cas, tant que je peux. Ce n'est pas tout le temps possible, mais c'est des médicaments en fait qui soulagent un symptôme sans que la maladie soit réellement guérie à la source. Je ne sais pas si vous avez vu un peu cet aspect. Ça ne guérit pas forcément la source, mais ça soulage un peu. Donc c'est ça l'utilité qui devient restreinte dans le sang de l'alliance des animaux. On va continuer un peu avec notre étude. Donc est-ce que François, tu peux lire versets 5 et 6 de Hébreux, s'il te plaît.
C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté.
Merci.
Après avoir dit...
Oui, tu peux continuer si tu veux, ouais, verset 8, c'est toujours intéressant. Ouais. Tu peux continuer.
Après avoir dit d'abord... Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché.
tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Ça se répète, hein, vous avez remarqué. Donc les cérémonies qui sont extérieures, physiques, doivent satisfaire à une exigence morale intérieure pour que Dieu agrée. Sachant que celui qui offre extérieurement, avec un cœur impur, avec des intentions mauvaises, avec hypocrisie, il n'est jamais couvert. Et dans Amos 4, 4 et 5, Dieu dira à ce peuple, allez-y, offrez des sacrifices tout en continuant à pécher. Donc il les reproche à cause de leur sacrifice qui n'a aucun sens. Donc ce peuple d'Israël avait utilisé les sacrifices comme qui n'est qu'un symbole, hein, après tout. Mais finalement, c'est devenu des rites extérieurs qui substituaient la foi sincère d'un cœur purifié. C'est ça le problème avec ces sacrifices. C'est pour ça que Jésus lui-même dit dans l'Ancien Testament, c'est Jésus qui parle, hein, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu me formes un corps, tu m'as formé un corps. » Ça, dès l'Ancienne Alliance, il parle ainsi. Donc, quand bien même l'Ancienne Alliance est toute récente, hein, ça venait d'être, enfin, c'est tout fraîchement donné, hein, dans Samuel, dans le livre de Samuel. Et là, il dira à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Vous vous rappelez ce passage? Donc, c'est vraiment une pure moquerie et hypocrisie de offrir les sacrifices sans la foi, la très sainte foi, sans la foi sincère, sans la dévotion, la piété et l'honneur envers Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dira, ce peuple m'honore avec ses bouches, mais son cœur est complètement loin. Donc ce passage, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, c'est repris du psaume. Hein. Psaume chapitre 40, psaume de David, 7 à 9, on lit. Et l'auteur des Hébreux, il démontre que même temporairement, le péché n'est pas couvert pour ceux qui font des sacrifices vains comme ça. Donc aucune part pour eux, aucun héritage éternel pour eux, si les sacrifices des animaux ne sont pas donnés dans le bon esprit, même dans l'Ancienne Alliance. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Donc Dieu était presque dégoûté. Il dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Je vous laisse lire hein, ce soir si possible. J'étais en train de lire cet après-midi encore Ésaïe 1, 11 à 18. C'est là où il dira à la fin, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je le rendrai plus blanc que la neige. Il y a même un chant hein, sur les ailes de la foi. Blanc, plus blanc que la neige. Et quand on lit ce chapitre, ça commence ainsi dans cette section. Hein. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dépourvu de sens, c'était devenu des formalités humaines et complètement, enfin, sans grande utilité finalement. Alors, j'ai ajouté quelques pensées justement cet après-midi ou ce matin quand je lisais. Hein. On vient maintenant dans cette deuxième section partie, c'est de cette perfection du sang de l'Alliance éternelle par le corps de Jésus-Christ. Et on va voir la sécurité aussi, la garantie qui est étendue à tous les Hébreux et aux païens. Nadine, tu peux lire Hébreux 10, 14 et 15, s'il te plaît.
Car pas une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit...
Oui, merci. Donc j'ai ajouté ce verset parce que au moins c'est très utile qu'on puisse lire, je pense. Par une seule offrande, il a amené à la perfection. Donc c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je trouve que c'est apaisant hein, de reconnaître que nos péchés sont lavés et nous sommes affranchis, libérés de la culpabilité même. Et nous reconnaissons que nous sommes sanctifiés maintenant par une seule offrande et amenés à la perfection même dans notre rôle sacerdotal. Pierre, il va le dire tout à l'heure, dans son épître. Il dit, nous avons un rôle sacerdotal, une nation sainte, un peuple acquis, donc accompli quelque part, hein. Pas perfection dans le sens qu'on ne pêche plus, mais accompli avec ce rôle sacerdotal en tant que chrétien, parce que nos péchés sont ôtés. Et Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est en cela que consiste toute la sécurité éternelle du salut des croyants au Messie Jésus, qui est né où? À Bethléem, mort à Jérusalem, ressuscité le troisième jour il y a 1985 ans environ. C'est un peu à peu près la date historique hein, sur ce qui s'est déroulé. Donc toute cette vérité spirituelle a toujours cette historicité et même ça se matérialise plus tard dans le temple. Hein, tout à l'heure on lira ça. Nielsen, tu peux lire Hébreux 10 dans les notes. Je ne sais pas si tu l'as, du verset 7 jusqu'au verset 10, puis verset 12, s'il te plaît.
J'ai un petit problème technique, vous pouvez quelqu'un d'autre peut le lire.
François, tu l'as?
Tu peux répéter?
Alors, Hébreux chapitre 10, donc verset 7 jusqu'au verset 10.
D'accord. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, il est dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes.
Merci. Et verset 12, s'il te plaît.
Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu.
Amen. C'est une glorieuse alliance hein, que Dieu a voulu. Et c'est un parfait achèvement du plan salutaire par le Fils qu'il a pu s'asseoir à la droite du Père. Tout est accompli. Et c'est presque en exaltation, hein, en étudiant ce passage, qu'on peut dire quel corps de notre Seigneur, dont la déchirure sur la croix est vue matériellement, lorsque le voile du temple est déchiré pour donner accès non seulement aux Hébreux, mais également aux païens. Et c'est en effet, hein, cette alliance va inclure un nouveau peuple, un nouvel homme par le sang de Jésus qui réunit les Hébreux israélites et les non-israélites des nations. Et j'aime beaucoup ce passage. Tu es sur les notes, Nadine?
Oui.
C'est très bien. Est-ce que tu veux bien lire Éphésiens que j'avais mis sur les notes, s'il te plaît?
11 et 18.
C'est ça, 11 à 18. Dans les notes, j'ai mis que jusqu'au 14, ça ira.
C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés circoncis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié.
Merveilleux, ouais. Donc si l'ancienne alliance ne donne pas l'accès au lieu très saint, ici nous lisons le sang de Christ réunit les Hébreux qui sont proches à cause des alliances de la promesse avec les non-Hébreux, non-Juifs, les gentils, nous. Car par lui, Jésus, les uns et les autres, nous avons accès au Père dans un même esprit. Verset 18. Donc c'est merveilleux. Vous voyez comment le sang de Christ donne non seulement accès aux Hébreux, mais aussi aux non-Juifs. Comment se déroule donc cette seconde alliance selon Jérémie hein? C'est un peu repris dans les versets 16 à 18, dans Hébreux 10. Nous avons déjà lu, hein, quand on en étudiait chapitre 8. Donc si cette nouvelle alliance inscrit la loi de Dieu dans les cœurs et esprits hein, des Israélites, quelle grâce de Dieu d'ôter les iniquités en pardonnant les péchés de son propre peuple à lui, peuple hébreu. Et en outre, cette nouvelle alliance a étendu le glorieux plan du salut envers les païens aussi, comme Paul il écrit, hein, l'œuvre du sang de l'alliance éternelle de Jésus, notre Messie. Il nous a rapprochés des Juifs en créant avec et en Jésus un seul homme nouveau. Là, on va voir un peu le rejet hein, maintenant du jugement conséquent. C'est la troisième partie pour ceux sous l'ancienne comme sous la nouvelle alliance. C'est un avertissement solennel, hein, quelque part, ici. Donc, l'apostasie. Est-ce que quelqu'un il a déjà pensé à ce sujet de l'apostasie?
Donc, moi, il n'y a pas longtemps.
Il n'y a pas longtemps. Alors, qu'est-ce que tu as songé?
Mais bon, j'ai pas songé, non. J'ai entendu parler, c'est où j'ai entendu pour la première fois le terme apostasie. Il y a quoi? C'est 2 semaines? Ça va faire 2 semaines de cela.
D'accord. Ok.
Donc, ouais, les catholiques qui font des demandes pour être débaptisés.
Ouais, d'accord. D'accord. Donc, on les appelle apostats, c'est ça? D'accord. Oui, parce qu'à cause de tout ce qui est de ces problèmes, des scandales, c'est ça, qui a eu lieu, quoi.
Oui, il ouais. Y a même un site internet, apostasie.fr.
D'accord. Ah ben, j'irai voir, tiens. j'ai pas fait attention. Mais ici, dans Hébreu 10, 26 à 39, justement, il est question justement de toute cette apostasie. La vraie apostasie selon la Bible, hein, pas les catholiques qui se débaptisent. Ici nous lisons une définition quelque part, verset 26 est vraiment enfin ce qu'est un apostat ou apostasie. François, tu peux le lire s'il te plaît?
Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés.
Merci. Donc, on note l'auteur qui écrit ça après avoir détaillé depuis le début de sa lettre dans les chapitres précédents sur la garantie, la sécurité, l'excellence, le caractère éternel du sacrifice et le caractère éternel du salut en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est après avoir écrit tout ça qu'il dit « si nous péchons volontairement ». Donc, un apostat, c'est quelqu'un qui a entendu plus d'une fois la vérité en Christ. L'évangile, il a même goûté l'Esprit Saint, comme c'est écrit dans chapitre 6 d'Hébreu, mais il rejette néanmoins volontairement. C'est là le péché de l'apostasie. Donc les apostats sont des incroyants, tandis que tous les incroyants ne sont pas forcément des apostats. Donc un apostat, c'est quelqu'un qui s'expose suffisamment dans la loi de Dieu et dans le sang même de l'alliance selon Moïse, dans le contexte des Hébreux, dans la justice accomplie en Christ, mais après avoir reçu tout ça, l'exemple de Judas, il a vu l'apostat, il a touché, connu même Christ, mais il rejette la vérité. Donc l'incrédulité, l'endurcissement volontaire est la cause de l'apostasie. C'est ce qu'on a lu un dimanche dans Actes. Paul, il parle à ces juifs qui... Actes 28, dans son appartement, à ces juifs qui sont incrédules encore. Donc la cause de l'apostasie, c'est l'incrédulité, la rébellion contre Moïse au désert. Et ils sont inclus même par rapport à ces hommes dans la période de Paul. Ceux qui étaient contre Moïse aussi, et aussi contre Paul dans la Nouvelle Alliance, en quelque sorte sanctifiés dans le sang de l'Alliance de Moïse, comme c'est écrit dans chapitre 10, verset 29, mais sans jamais confier ni en Dieu ni à la victime propitiatoire du Messie. Donc ils ont foulé aux pieds le Fils de Dieu, ils outragent l'Esprit de grâce, c'est un peu comme les hommes Hyménée et Philète dont Paul décrit dans 2 Timothée. Sachant que ces versets sont très débattus, hein. On ne va pas rester très longtemps dans ces débats, bien sûr. Certains pensent que le fait d'être sanctifié par le sang de l'Alliance, c'est comme un non-croyant ou un mari ou une femme qui est sanctifié par son conjoint, qui est chrétien, qui est croyant. Donc, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que... certains voient se sanctifier, hein, dans le verset 9, 29, je ne sais pas si vous avez remarqué, sanctifié par le sang de l'Alliance. Et puis on peut aussi voir dans ce verset les Israélites sous le sang de l'Alliance mosaïque comme un peuple mis à part, sans pour autant être dans la foi sincère en Dieu qui a donné son agneau immolé. Il y a aussi ce concept qu'on peut voir. Ce sont les Israélites qui sont sanctifiés, mis à part, mais qui n'ont pas la foi dans l'agneau de Dieu. Donc plusieurs juifs étaient mis à part hein, dans la nuit pascale en Égypte. Mais plusieurs ont péri aussi. Tous étaient mis à part, ils ont quitté, mais plusieurs ont péri à cause de leur endurcissement. Ils étaient rebelles contre Dieu, ils ont piétiné le Fils, médiateur de la Nouvelle Alliance, le rocher spirituel même, Paul dira, dans le désert. 1 Corinthiens 10, 4. Donc par le rejet de la vérité, après l'avoir connu, ces Hébreux apostats se sont rebellés contre Dieu en tant qu'incrédules, donc sans foi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce passage de Corée, Dathan, Abiram, nombre 16. Vous avez déjà eu l'occasion de lire? Vous êtes là?
Oui.
Donc je ne sais pas si vous avez lu dans nombre 16, peut-être que on peut le lire rapidement. C'est intéressant, ces hommes, hein, dans nombre 16. Quelqu'un peut lire verset 1, 2.
Corée, fils de Jitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et on fils de Pélet, tous trois fils de Ruben, ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom.
Voilà, ils étaient des gens de renom, et en plus, il va donner encore plus de détails, hein. Ils étaient choisis même pour le service, donc mis à part encore, en quelque sorte. Tu peux lire 8 à 11, s'il te plaît.
Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe font prier à Aaron pour que vous murmuriez contre lui.
Merci. Est-ce que tu peux continuer, puisque tu es toujours avec ce passage, dans 32 à 35, verset 32 à 35?
La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour de mort, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient « Fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse ». Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum.
Merci beaucoup. Ouais. Donc après, il y aura aussi, c'est dans le verset 46, des 14 700 hommes qui meurent aussi. Hein. On ne va pas lire tout. Donc tout cela, on n'a pas obtenu le rachat des transgressions. Alors pour Marc, on est dans la troisième page. Si tu veux, dans la première paragraphe. Pardon ?
C'est pas dans les brebis.
Non, là c'est nombre 16 justement, rapport justement par rapport à ces incrédules justement, on est en train de voir. Marc, il vient de nous rejoindre. Donc ils ont pas reçu leur héritage éternel promis par le sang de Christ. C'est ça que je vois. Hein. Il semble que cela était séparé, hein, ces hommes pourtant, choisis pour le service même. Ils étaient si proches de Dieu, verset 9 tu l'as lu, mais ils sont quand même engloutis par la terre. Leurs troupes qui les ont suivis ont péri même au feu. Et je vois un parallèle ici. Hein. Il est possible, il me semble hein, peut-être, je ne sais pas, mais l'auteur des Hébreux, il a pensé peut-être à ces exemples d'hommes en disant une attente terrible du jugement et l'ardeur de feu dévorera les rebelles qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié. Hébreux 10, 27 à 31. Donc il dit, ils ont foulé donc aux pieds le Fils de Dieu, hein, par leur rébellion, leur esprit de révolte, de division. Donc ils agissent contre la vérité de la foi chrétienne, tels ces méchants juifs. Et puis il faut savoir, hein, c'est un avertissement solennel, hein, tout ce passage. Cela donne vraiment un jugement de Dieu. Et même parmi les païens, dans le contexte de différentes dénominations d'église, des différents noms de l'église, des apostats peuvent exister. Donc c'est ça qu'il faut retenir dans tous ces passages. Maintenant, on va voir ceux qui ont accepté Christ et la sécurité éternelle du salut. Donc on a déjà vu en 11 à 17, du moins certains passages dernièrement. Donc on va se concentrer sur Hébreux 10, 19 à 25, 32 à 39. Bien sûr, on n'aura pas le temps de lire tous ces passages. Et cela encourage ces versets, ceux qui ont reçu ou qui reçoivent le salut en Christ. Lorsque l'auteur des Hébreux, il est en train de prêcher oralement peut-être, lorsqu'il écrit ces textes et qu'ils ont lu dans l'assemblée et que certains juifs reçoivent, certains Hébreux reçoivent. Et c'est pour cela, pour ceux qui ont reçu le salut en Christ parmi les communautés des Hébreux, qui sont unis avec les Juifs, que s'applique ce sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus. Parce qu'il commence dans le verset 19, hein, frère, il dit. Donc il s'adresse à ceux qui sont unis avec Jésus-Christ comme le frère, notre frère. Et donc par lequel on a la libre entrée possible à travers le voile. Et c'est ça qu'il va dire dans ces versets. Une route nouvelle, vivante, est inaugurée par Jésus, historiquement crucifié à la mort. Donc rappelons-nous, hein, que ces vérités qui sont très spirituelles, certes, mais matérialisées, lorsque le corps du Christ a été mis à mort, hein, le corps dont il parlait plus haut, tu m'as formé un corps, le corps que Dieu a formé en Messie. Et lorsqu'il rend aussi l'esprit au moment même où la déchirure du voile s'accomplit matériellement dans le temple. Ça, c'est merveilleux. Marc, tu peux lire, tu es peut-être dans ces notes. Alors, dans Matthieu 27, 50 à 52, tu le vois?
Matthieu 27.
50 à 52.
C'est la dernière page.
Voilà. Jésus poussa. C'est pas celui-là.
Ah oui, là, d'accord. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent.
Merci. Donc, ici, c'est un événement historique, matériel. Donc la mort, le corps de la mort. Jésus-Christ meurt, le sang jaillit, il rend l'esprit. Il y a un événement extraordinairement spirituel qui s'accomplit pour toute l'humanité, pour les Hébreux comme pour les non-Hébreux. Matériellement, ça se réalise avec cette déchirure du haut en bas. Ça, c'est atypique, hein, comme déchirure du voile. Et cette pénétration au-delà du voile de Jésus dans le lieu très saint, comme souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, est la meilleure alliance, qui est bien supérieure d'une à l'autorité de la verge d'Aaron, secondo étant la manne d'en haut qui nourrit l'âme. Jésus-Christ meurt pour nous donner cette nouvelle vie à travers son corps, et de trois, la parole de la nouvelle alliance divine faite chair vivifie notre esprit, quelle que soit notre faiblesse du moment présent. Et cela révèle aussi une autre vérité, que Jésus, ayant aimé la justice, il pénètre avec son sceptre d'équité. Le roi des rois, dans le mouvement majestueux, au-delà même du voile, avec son propre sang. Et Pierre, il écrira, hein, à tous ceux qui sont dispersés dans la diaspora juive, comme nous, il dira, vous qui êtes des participants, vous qui participez à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et dans cet élan majestueux, dans le lieu très saint, que Jésus-Christ fait cette aspersion par son propre sang. Donc en y entrant avec le Messie, Jésus-Christ, notre espérance, Paul il dira, hein, dans 1 Timothée 1:1, Jésus-Christ est notre espérance, notre âme pénètre dans le lieu très saint, avec cette espérance de l'éternelle sécurité au-delà du voile, comme une ancre solidement amarrée dans son sanctuaire éternel et son tabernacle céleste. Et c'est ça un peu les versets qui décrivent dans Hébreux 6, 17 à 20. Hein, on n'a pas le temps de lire. Donc il parle justement de cette au-delà du voile, notre âme est dans cette espérance, se repose dans cette espérance au-delà du voile, comme une ancre qui est solidement amarrée dans le sanctuaire céleste de Jésus-Christ. C'est merveilleux, je trouve, ouais, ce passage. Ouais. Pour faire, ô Dieu, ta volonté, et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, hein, comme nous avons lu dans les versets plus haut. Donc l'auteur hébreu, il cite l'Ancien Testament et nous fait apercevoir que le sacrifice de son fils, de Jésus, a toujours été la volonté de Dieu. Hein. Dès la fondation du monde, l'agneau de Dieu qui a été immolé, qui a été prédestiné avant la fondation du monde, écrira Pierre. Et puis les apôtres Jean aussi, l'apôtre Jean et Paul aussi, ils disent de ce dessein divin planifié, prédestiné avant les temps éternels, que c'est en Christ, l'agneau de Dieu immolé, que Dieu a voulu manifester sa grâce. Donc on ne peut pas parler de la grâce sans l'agneau de Dieu. Il manifeste sa grâce devant son trône et de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Donc j'entrecoupe ces paroles avec 2 Timothée 1,9, Apocalypse 13, 8. J'ai pris aussi des versets de 1 Pierre, hein, bien sûr. Je n'ai pas noté ici, mais bon, ça vient à l'esprit. Donc le roi des rois, le fondateur des cieux, le fondateur de la terre, il nous ouvre une entrée libre, vivante, nouvelle, dans son sanctuaire. Et moi je trouve vraiment cela un privilège, hein, une joie, et quelle allégresse que nous avons même en cette soirée, en pleine semaine, un peu fatigué même pour certains peut-être. Mais quelle joie que nous devons voir à travers ce voile où Dieu a oint son fils d'une huile d'allégresse. Hébreux chapitre 1, verset 9. On peut dire Dieu a christifié. Oint, c'est le mot écrissène. Hein. Il a oint Jésus, son fils, le Messie, son fils éternel d'une huile d'allégresse. Je vais terminer en nous exhortant un peu, en nous encourageant avec ces versets dans Hébreux 10, 23 à 25. Pour nous qui sommes dans la foi, en Christ, dans cette sécurité éternelle en Jésus-Christ, sauvés une fois pour toutes, parce que le sacrifice a été donné une fois pour toutes. Il est le garant de notre salut, le garant du salut éternel. Donc je lis versets 23 à 25. Retenons donc fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc des beaux passages, hein. Donc pour récapituler un peu, hein, tout ce qu'on vient de dire, c'est que voilà, il y a une insécurité, c'est inefficace, le sang de l'Alliance Mosaïque, comme nous lisons dans ce verset 29. Même ceux-là qui étaient sanctifiés par le sang de l'Alliance, je crois, de Moïse, ils ont une attente terrible de jugement s'ils ne croient pas en Dieu, s'ils ne croient pas au Fils de Dieu, et s'ils plongent dans cette rébellion telle Corée et sa troupe. Comme ces hommes, ces 250 qui étaient consumés par le feu. Une attente terrible est là pour ceux qui rejettent Jésus-Christ. Et pour ce qui est de cette perfection, on a vu aussi, hein, Jésus il dit « Tu m'as formé un corps. » Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. La perfection du sang de l'alliance éternelle par le corps du Christ et donne une sécurité et une garantie étendue aux Hébreux et aux païens par le sang de Jésus. Hein. Nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Nous qui étions jadis éloignés, même nous païens. Donc on a vu ça. Et puis aussi cette acceptation, par l'acceptation, on a cette entrée. Nouvelle, dans cette route nouvelle, vivante au travers du voile, dans cette espérance qui est amarrée, qui est ancrée. Donc en conclusion, c'est la scène la plus sublime de la croix du Christ, où de nombreuses vérités spirituelles prennent sens pour chacun de nous, même nous qui ne sommes pas juifs. Un si grand salut éternel, obtenu par le garant éternel Jésus le Christ, elle ne peut que rester permanent, pour toujours, à perpétuité, à tous ceux qui l'ont reçu et cru, tant aux Hébreux que pour les non-Hébreux, les païens. Donc on peut dire, ensemble même, hein, gloire à Dieu, notre Père, au Fils, notre espérance, et à l'Esprit de grâce au siècle des siècles. Amen. On va conclure avec une prière, si vous voulez. Merci Père Céleste pour ce moment que nous avions eu, un certain petit groupe qui se réunit ici, mais toi tu nous vois, et même à travers cette technologie, nous te remercions de ce que tu as uni nos esprits, de ce que Jésus, qui est ce roi des rois, fondateur des cieux et de la terre, nous ouvre une si merveilleuse entrée libre, vivante, dans ton sanctuaire. Seigneur, nous sommes plongés dans ces méditations, nous prions que tu nous transformes à travers ces méditations aussi, puisque nous sommes appelés à être comme à l'exemple de Jésus-Christ, marcher même dans ses souffrances. Mais tu es un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses, tu viens à notre secours et tu nous as prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Transforme-nous et que, en quittant ces lieux, nous voyons ton œuvre accomplie dans notre cœur, dans la vie pratique, même s'il y a des péchés qui nous chagrinent souvent, nous savons que notre conscience est purifiée par le sang de Jésus. Notre conscience est purifiée des œuvres mortes afin que nous servions toi, le Dieu vivant. Gloire à toi, notre Père. Gloire à toi, notre Seigneur Jésus, notre espérance. Gloire à toi, l'Esprit de grâce au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Merci de votre attention. Donc, j'arrive à la fin de cette étude. Nous arrivons à la fin de cette étude. Merci de toute votre attention. À bientôt.
Merci.
Merci.
Bonsoir.